La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
L'imagination peut-elle aider à savoir ? Pour Aïssa, l'imagination est dite bénie quand elle aide à la création poétique. Bien sûr, pour Jacques aussi. Mais la question que se pose Jacques, c'est le statut de l'imagination dans le concept. Et nous avons suivi un cheminement assez ardu. Bravo pour les auditeurs qui ont suivi. Il s'agissait de métaphysique pure. Mais je vais sauter quelques pages qui concernent, on va dire, la troisième étape, c'est-à-dire le troisième degré d'abstraction. Je vais simplement résumer. Dans la première étape, celle du Dasein, on dit « la rose est là ». Maritain dit que l'existé de la rose est présent dans cette affirmation « la rose est là », mais de manière virtuelle, non encore conceptuelle. Et c'est simplement quand on passera au Sein, « la rose est », que là, l'existé est présent de manière conceptuelle. Donc le premier niveau, c'était le « Dasein », l'être là, « la rose est là ». Et le deuxième niveau, c'est l'être. Quel est le bénéfice de cette distinction subtile ? Le bénéfice, c'est de montrer qu'il peut y avoir un concept d'exister qui échappe de manière radicale au processus d'abstraction qui permet de passer de l'image au concept. Et l'image est importante parce qu'elle nous permet de passer de la chose au concept. Donc l'imagination est indispensable pour tous les autres actes de jugement. Sauf pour celui-là, où on arrive à une pureté, donc il y a une possibilité de processus pur, sans que l'image vienne lester l'idée ou le concept. Alors revenons un peu sur ces dangers de lestage. Après cette démonstration qu'il y a une possibilité donc de pureté du concept, revenons sur des philosophes qui vont être critiqués par... Maritain, ce sont les faux métaphysiciens, c'est-à-dire ceux qui vont rester dans ce lestage. Pour comprendre ce qu'est un faux, voyons ce qu'est un vrai. Et on va rajouter une notion, c'est la notion qui est fondamentale pour la philosophie réaliste, celle d'analogie. Alors je donne la parole à Maritain parce que je trouve qu'il est plus simple de le commenter, de vous donner des images et des métaphores pour éclairer son texte. Passons du Dasein au Sein et du plan du premier degré d'intelligibilité au plan du troisième. Il y a des philosophes qui, sans être Saint Thomas ni quelqu'un de ses grands disciples, sont de vrais métaphysiciens et auxquels cependant il manque quelque chose. C'est à leur cas et à celui du plus grand d'entre eux que je vais m'arrêter un moment. En quoi sont-ce de vrais métaphysiciens ? Parce que non seulement les concepts dont ils usent sont des concepts du troisième degré d'abstraction ou d'intelligibilité, mais eux-mêmes, pour penser et pour user de ces concepts, sont placés dans la perspective du troisième degré d'intelligibilité et ils ont réellement le sens de l'analogie de l'être. Avec cela, ce sens même de l'analogie de l'être qu'ils ont réellement, ils l'ont d'une manière encore incomplète et déficiente. Pourquoi ? Précisément parce qu'ils n'ont pas eu l'intuition de l'être formellement et en pleine lumière. Et Maritain va prendre le cas de Bergson. Bergson a bien eu l'intuition de l'être, mais d'une façon déguisée ou dans un substitut qui est la durée, et dont par suite la métaphysique a doctrinalement dévié. C'est d'une manière toute déguisée aussi que le sens de l'analogie se trouvait chez lui. Qu'entendre par analogie ? Alors l'analogie, c'est emprunté à Aristote, qui dit dans sa métaphysique, l'être se dit de plusieurs manières. Comment comprendre ce plusieurs manières ? Eh bien, je crois que le plus simple, c'est de comprendre qu'il y a de l'être dans la table, dans la rose, dans l'herbe, en vous-même, et qu'à chaque fois, il se dit d'une manière différente parce qu'il est dans une chose différente. On ne va pas le dire de la même manière pour l'être de la rose, pour l'être de l'herbe, pour l'être de l'homme. Voilà, je pense qu'une manière de comprendre l'analogie, ce serait d'articuler finalement l'un et le multiple. Il y a une sorte d'incarnation multiple. Je reprends l'exemple de l'eau qui peut vous éclairer, avec une eau et différents états, gazeux, liquide ou glace. Maritain prend l'exemple de l'analogie aussi au plan historique, en disant il y a différentes manières d'incarner le christianisme. Ne pas confondre la chrétienté, qui est une forme d'incarnation, et le christianisme. Donc, Maritain va distinguer l'ère sacrale, qui est l'ère du Moyen-Âge, l'ère moderne de la Renaissance, et l'ère après la guerre de 14-18, qu'il voudrait comme une ère de Renaissance, cette fois-ci théocentrée, non anthropocentrée. Donc, vous voyez, chaque époque s'incarne différemment à ses vérités et ses limites, bien sûr. Donc, l'analogie s'oppose à droite et à gauche à l'univocité, c'est-à-dire 1 égale 1, ou 2 et 2 font 4, et à l'hétérogénéité, c'est-à-dire la multiplicité qu'on peut avoir dans une image poétique, où je peux dire bleu, et bleu peut renvoyer à plusieurs choses de manière complètement hétérogène, le bleu d'un marin, le bleu de la couleur, le bleu l'hématome, le bleu le fromage, le bleu de la mer, etc., etc. Voilà. Et au centre, entre les deux, je dirais, pour essayer de le faire comprendre de manière simple, l'articulation de l'un et du multiple. Maritain prend un autre exemple, Aristote, parce qu'il est son maître. Il a eu admirablement, lui, le sens de l'analogie, et pour cause, je viens de partir d'Aristote pour dire que l'être se disait de diverses manières. Il l'a eu réellement, mais non pas d'une manière déguisée, comme Bergson. Mais il ne l'a pas eu formellement et en pleine lumière. Il ne l'a eu que virtuellement, et là vous comprenez le mot virtuellement. On a eu cette notion de l'acte d'exister dans la rose quand on dit la rose est là. C'est le design de la rose, c'est l'être là de la rose, et l'essai de la rose, on existait, n'est là que virtuellement. On n'en est pas pleinement conscient. D'où une métaphysique, selon Maritain pour Aristote, qui n'est pas doctrinalement faussée ni déviée, mais qui souffre d'une omission grave. Et pourquoi n'a-t-il pas pu avoir formellement l'intuition de l'être? Parce que c'est un cas particulier, parce qu'il n'a pas passé, selon Maritain, le mur des essences. Qu'entendre par ça? L'essai lui-même, il l'a conçu à la manière des autres transcendantaux. L'essai, c'est l'exister. Par un concept authentiquement métaphysique, c'est-à-dire produit au troisième degré d'intelligibilité, et employé dans une perspective authentiquement métaphysique, celle de l'être, du Sein. Mais c'est une perspective encore à demi fermée, ou arrêtée par une inhibition, et non pleinement libérée ni libératrice, dans laquelle le regard reste stoppé aux essences. Revenons sur ce paragraphe. Penser l'exister à la manière des essences, c'est-à-dire des transcendantaux qui sont le bien, le beau, l'un, le multiple, c'est finalement rester dans une forme d'idéalité. Pour sortir de l'idéalité, c'est l'exister qui est le critère. Et Maritain pense l'essai à partir de l'exister. Maritain insiste sur le troisième concept de l'existence, qui est un concept métaphysique cette fois, qui est d'origine abstractive et non judicative, mais comme il est formé au troisième degré d'abstraction et non au premier, il permet d'échapper au lestage de l'image pour le concept. Aristote souligne Maritain. Pour Aristote, l'essai sera un transcendantal comme les autres, comme le bon, comme l'un, comme le beau. Son privilège absolu, qui est d'être le roi des transcendantaux, restera caché au regard et ne sera connu que virtuellement. Privilège qui ne fait qu'un avec le fait rappelé dans une section précédente et qui de même ne sera connu que virtuellement, à savoir que l'analogie de l'être est la raison et la clé de celle des transcendantaux. N'avoir connu cela que virtuellement, sans donc pouvoir en faire usage dans sa pensée de manière explicitement formulée et dans sa doctrine, voilà pour Maritain un des signes de la limite d'Aristote et qui montre que sa perspective, tout en étant bien celle de l'être, restait encore à demi fermée. Cette ligne assez stable de Christus de Franz Liszt pour annoncer la naissance du Christ nous permet de rester dans cette métaphysique assez ardue, mais qui mérite d'être comprise. Pour Maritain, Aristote est un immense métaphysicien, mais son intuition de l'être reste seulement virtuelle parce que trop tributaire de son lien avec les transcendantaux, c'est-à-dire qu'elle fait basculer, elle bascule du côté de l'essence. Dès lors, Aristote a beau enseigner que l'existence se distingue de l'essence comme l'acte de la puissance, il continue de concevoir l'existence elle-même à la manière d'un quid ou d'une essence, ou par mode d'essence ou de qualité. Il ne dit pas que l'existence est une essence ou une qualité, tout en l'opposant d'une certaine façon à tout l'ordre des essences et des qualités, il le pense et ne peut pas ne pas le penser, parce qu'il lui est présenté par un concept d'origine abstractive, c'est-à-dire par l'abstraction d'une image, sous le même angle sous lequel il pense les essences et les qualités. Il aurait fallu que Aristote pensa ce concept d'exister, non par un concept du deuxième concept de l'existence qui est dû à un retour sur l'intuition de l'être formellement reçu, et on est dans un jugement d'existence. Ainsi envisagé, l'existence sera un acte comme les autres, comme intelligere, c'est-à-dire comprendre, et l'acte de l'intellectus, c'est-à-dire de l'intellect. Et sans doute, Aristote a bien vu qu'entre dire laisser actu l'essence, c'est-à-dire l'existence actu l'essence, et dire l'intelligere actu l'intelligence, il y a une analogie, il l'a bien vu. Mais il n'a pas vu qu'il y a un abîme entre ces deux assertions. Dans la seconde, l'intellection est l'acte de l'intelligence. On dit que l'intellection est l'acte d'une certaine essence supposée existante, tandis que dans la première assertion, exister est l'acte de l'essence, il s'agit d'un acte par lequel une essence qui n'était rien est posée de rien hors du rien. On déclare alors un irréductible absolu, une sorte de miracle de la nature, qui suppose en réalité l'action du Dieu créateur qui donne l'être à tout ce qui est. Voici pourquoi Maritain pense qu'il y a eu une cécité, une incomplétude dans la métaphysique d'Aristote, parce qu'il est avant l'incarnation du Verbe. Pour Maritain, l'incarnation du Verbe va faciliter en quelque sorte cette compréhension du statut tout à fait à part, inaliénable à autre chose, du jugement d'existence. Quand on dit « exister est l'acte de l'existence », il s'agit d'un acte, je le répète, par lequel une essence qui n'était rien est posée hors du rien. Une essence qui n'était rien est posée hors du rien. C'est l'acte de la création. Donc Aristote saura bien, pour les transcendantaux, que l'être et le bien sont convertibles, on peut les échanger. Plus une chose a d'être, plus elle a de bien, et réciproquement. Mais il ne saura pas que l'identité absolue entre l'être et les autres transcendantaux, comme aussi entre l'être et les intelligibles, tels que l'intellection et l'amour, qui n'impliquent de soi aucune imperfection, ne se trouve que dans un exister et une transcendance infinie, qui est ipsum esse, perse, subsistance, qui est l'être Dieu, l'être existant par lui-même. Aristote a bien su que Dieu est l'acte pur et la pensée de la pensée. On le trouve dans la métaphysique au livre Lambda, chapitre 9. En grec, pour le plaisir, pour les hellénistes qui nous écoutent, « Kai estin enoesis, noeseos, noesis ». Mais cette pensée de la pensée se connaît elle-même sans connaître du même coup toute chose. Bien sûr, puisqu'elle ne les crée pas. Et cet acte pur reste un premier moteur de l'univers, qui est le premier moteur. Aristote n'a pas su que Dieu est le créateur de l'être, parce qu'il n'a pas su qu'il est l'être même subsistant par soi. Donc cela reste un premier moteur. Bref, Dieu, de si noble façon que parle de lui la métaphysique d'Aristote, n'a pas été atteint par elle, analogiquement, cela va sans dire, dans son constitutif propre. Et c'est la physique d'Aristote, bien sûr que sa métaphysique, qui a livré à celui-ci l'épreuve de l'existence de Dieu. Et cela est à l'honneur de la physique aristotélicienne, cette philosophie de la nature, comme toute philosophie de la nature digne du nom, est certes un savoir constitué au plan du premier degré d'abstraction, mais cela reste un savoir ontologique, qui s'est évadé du Dasein, de l'être-là, et qui a affaire à l'être lui-même, parce que ce savoir et les concepts dont il fait usage sont éclairés dans l'esprit du philosophe et doués d'un sens participativement métaphysique ou significatif de l'être, par l'intellection métaphysique que le philosophe met en œuvre au troisième degré d'intelligibilité. Voilà, pour cerner un peu cette question de la place de l'imagination dans le concept, c'est important parce que l'imagination vue comme marquée par le péché originel devient un peu souveraine quant à l'élaboration du concept. Elle le double, comme dit Maritain, mais elle le double jusqu'à pouvoir prendre sa place. Que dire ? Je voudrais conclure en disant que la philosophie thomiste peut être dite réaliste précisément parce qu'elle s'appuie sur ces trois notions que nous avons parcourues lors de ces dernières émissions sur l'imagination. La dernière que nous avons vue, c'est l'analogie de l'être. La précédente, c'est l'intuition de l'être qui permet de saisir l'être directement et donc de construire un concept de l'existence qui ne passe pas par l'abstraction de l'image. Et la troisième notion, c'est l'intentionnalité. Le sujet connaissant devient intentionnellement le sujet connu, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir une séparation entre les sens et l'intelligence. L'intelligence va englober les sens et on passe de la sensibilité à la sensation qui devient un sens par le sens intelligentiel, déjà une matrice de l'image qui est le sens interne. Pour conclure l'émission, quelques lignes de Maritain après quelques minutes d'écoute de Christus de Franz Liszt. Pour conclure sur ces auteurs, je voudrais revenir sur Dasein et Sein. Pour rappel, il y a deux concepts d'existence. L'un formé au premier degré d'abstraction, l'autre au troisième, dans un esprit qui a eu l'intuition de l'être de manière formelle et pas de manière virtuelle. Maritain dit que le premier concept d'existence est d'une part, comme tout concept d'origine abstractive, donc par les images, saisi et conçu par mode d'essence, à la manière d'un quid. On l'a vu avec Aristote, ça reste une limite. D'autre part, il est formé au plan du premier degré d'abstraction et il reste enfermé dans la sphère de l'expérience sensible et du monde où nous vivons. C'est l'appartenance à ce monde ou la présence à ce monde qu'il désigne. Il suit de ces deux faits que l'assertion de l'existence est alors en réalité une assertion copulative dans laquelle un sujet est déclaré présent à mon monde. La rose est là. C'est bien une assertion copulative. La rose d'un côté est de l'autre et puis là qui la déclare présent à mon monde. Quand on parle de l'existence de quelque chose à ce plan-là, c'est pour dire cette chose est présente ou présentement donnée. En d'autres termes, cette chose est là. Nous sommes donc dans le registre du Dasein. Nous sommes dans le registre qui va avec le premier degré d'abstraction ou d'intelligibilité. Et être là, c'est être présent à notre monde, au mode sensible. En d'autres termes, l'être est alors relationné au monde sensible. Il est pris dans sa relation au monde sensible, à cette physis, cette nature qui pour le philosophe est l'objet de la physique ou philosophie de la nature au sens d'Aristote et de saint Thomas. Conséquence, et nous finirons là-dessus, l'être, ou plutôt ce qui tient dans l'esprit la place de l'être, du Sein, est alors conçu et employé par le discours par mode univoque. Le concept d'existence est un concept analogue de soi, mais il n'est plus maintenant que le concept de présence à mon monde. Et dès lors, tout en restant un concept analogue de soi, pour le métaphysicien, il signifie l'exister, il est maintenant au plan du Dasein dont je parle, et où il ne signifie que la présence à mon monde, il est univoquement pris et univoquement employé. Par exemple, dans les conversations de la vie courante, « Passez-moi mon écritoire, il est là !» ou « Faites entrer Réginald, il est là !» C'est les propos qu'on peut reconstituer de saint Thomas à frère Réginald. Eh bien, cet immense métaphysicien qu'est saint Thomas ne songeait pas que l'exister d'un écritoire et celui d'un homme doué d'une âme spirituelle sont analogues. Il employait tout simplement la notion d'existence comme « Dasein », dans le mot « Passez-moi mon écritoire, il est là », dans une assertion copulative, il l'employait par mode univoque. Au contraire, quand il s'agit du second concept d'existence, celui qui procède de l'intuition de l'être, nous sommes dans le registre du Sein, qui va, vous l'avez compris, avec le troisième degré d'intelligibilité. L'assertion de l'existence est alors une assertion non pas copulative, mais proprement existentielle, l'assertion de l'exister. Et l'être est alors saisi comme tel, dans sa lumière propre, qui est la révélation de l'exister extra-mental, faite à l'esprit, dans l'esprit. Il est pris non plus dans sa relation au monde sensible, il est pris de manière absolue, dans son universalité sans limite, et intrinsèquement différenciée, parce qu'elle embrasse tout ce qui est. Faites entrer Réginald, il est là, n'est pas la même chose que l'écritoire est là. C'est le privilège du Sein de l'être.